Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi après-midi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette derrière le micro avec vous pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Tout à l'heure, notre infirmière en résidence, Jocelyne Gadebois, est avec nous en studio. Elle nous parle de la paralysie de Bell qui atteint partiellement ou totalement le visage. Ça touche une personne sur 60, la paralysie de Bell, donc je me disais que c'était quand même assez fréquent et que ça pourrait être pratique de reconnaître les signaux. Aussi, on parle de douleurs chroniques parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui vivent avec ces douleurs chroniques-là. En fait, pour être plus précise, une personne sur 5 et 3 aînés sur 4 en souffrent, des personnes aînées. Évidemment, ça a beaucoup de conséquences sur plusieurs aspects de la vie. Bien sûr, le moral, la santé mentale, tout ce qui est lié au quotidien, donc la santé globale. Et l'un des enjeux avec la douleur chronique, c'est de trouver un traitement qui est efficace. Enfin, on souhaite toujours trouver le remède miracle. Et bon, ça peut devenir assez complexe. L'usage des médicaments, on le sait, ça a ses limites, ça a ses effets aussi. Et de plus en plus, il y a de l'ouverture envers les médecines alternatives, peut-être grâce à une meilleure compréhension du milieu médical. Bref, j'en parlerai avec le docteur David Lucier, médecin gériatre, directeur scientifique du Centre Avantage et directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique. Docteur Lucier, bonjour.
Bonjour.
Docteur Lucier, je le disais tout à l'heure en introduction, maladie, donc plutôt douleur et non pas maladie, douleur chronique qui, à mon sens, est un mal invisible, un peu fantôme, j'appellerais, insaisissable. Du moins, c'est moins parlant que le cancer, par exemple, ou l'Alzheimer, mais c'est très fréquent. Les chiffres le révèlent à la pluie. Est-ce qu'il y a des indices qui nous disent pourquoi la douleur chronique est si fréquente ici au Québec, notamment?
Bien, la douleur chronique, ça dépend de quelle sorte de douleur chronique on parle, mais c'est certain que c'est très fréquent, surtout en vieillissant, premièrement, parce qu'on a une dégénérescence des articulations, dégénérescence du dos, des disques qui sont entre les vertèbres. Tout ça, ça peut causer de la douleur chronique. Il y a aussi toutes les douleurs au dos là, qui sont dues à des accidents de travail ou à une surutilisation. Donc, c'est probablement les raisons qui font que c'est aussi fréquent. Aussi le fait que ce soit souvent difficile à traiter. Donc, c'est pas comme si on avait une maladie qui est fréquente, mais qu'on traite, puis que la maladie disparaît. Mais comme elle est difficile à traiter, elle persiste dans le temps. Donc, ça en augmente la fréquence également.
Oui. Il y a aussi beaucoup d'impact dans la vie au quotidien des personnes touchées par la douleur chronique. Ça touche leur qualité de vie, leur santé globale. Quels sont les aspects qui sont touchés?
Ça peut vraiment toucher tous les aspects. Donc, la première chose qui est touchée, évidemment, c'est le fonctionnement, parce que quelqu'un qui a une douleur chronique a plus de difficultés à fonctionner dans son quotidien, à faire ses activités la quotidienne, par exemple, à se laver, à s'habiller, à s'occuper de sa maison, à sortir à l'extérieur, à travailler. Donc ça, c'est la première chose qui est touchée. Après ça, il va y avoir aussi le moral, l'humeur qui peut être touchée. Les gens souvent vont être plus déprimés, plus anxieux, même parce qu'on se demande ce qui va nous arriver, on se demande si on va s'en sortir, on se demande pourquoi on a mal autant. Le sommeil, souvent les gens vont moins bien dormir parce que c'est assez clair que si on dort moins bien, que si on a de la douleur tout le temps, une douleur sévère, on va dormir moins bien. Il va y avoir les relations avec les autres, la vie sociale, l'estime de soi, la qualité de vie. Donc, c'est tous des domaines qui peuvent être touchés par la douleur chronique.
Tout à l'heure, Dr Lucier, je faisais le lapsus avec maladie chronique. On le sait, de plus en plus d'incidences de cancer, de diabète. Est-ce que ça peut être lié aussi par la suite aux douleurs chroniques?
Oui, il y a certaines maladies chroniques qui peuvent donner des douleurs chroniques. La, la maladie chronique qui va donner le plus souvent de la douleur chronique, c'est l'arthrose, tout simplement. Uh-huh,
ouais.
Ce qui est une usure là, ou une dégénérescence des articulations qui va donner de la douleur chronique dans presque 100% des cas. Puis l'arthrose, malheureusement, c'est un phénomène qui est presque universel aussi. Avec le temps, puis en vieillissant, presque tout le monde va souffrir d'arthrose. Donc, oui, c'en est une maladie chronique qui va donner de la douleur chronique. Le diabète peut aussi donner de la douleur chronique de plusieurs façons. Il y a plusieurs maladies chroniques, oui, effectivement, qui peuvent donner de la douleur chronique, mais la douleur chronique en elle-même est une maladie chronique.
Oui. Et l'enjeu avec tout ça, c'est le remède miracle hein, que l'on souhaite tant. J'imagine que vous l'entendez assez souvent du côté du patient avec les déceptions qui vont avec. Le médicament idéal n'existe pas pour soulager les douleurs chroniques.
Malheureusement pas, non. Il n'y a pas de médicament idéal, il n'y a pas de médicament miracle qui peut soulager la douleur chronique parce que, premièrement, la douleur chronique a plusieurs raisons, plusieurs mécanismes, plusieurs facteurs, plusieurs causes, mais aussi, il n'y a rien qui peut soulager personne.
Ouais.
Qui peut soulager tout le monde, pardon.
Donc, des limites à l'approche pharmacologique et des impacts aussi qui peuvent survenir sur la santé des patients, des personnes touchées. Il y a parfois des effets indésirables liés à la médication.
Effectivement, parce que plusieurs des médicaments qu'on va utiliser pour traiter la douleur chronique vont agir directement sur le système nerveux, sur le cerveau. Ouais. Donc, on va avoir plusieurs effets secondaires, entre autres sur le cerveau, donc la somnolence, une diminution de la mémoire, un peu des fois de la perte de contact avec les réalités aussi. Mm-hmm. On va avoir des nausées, de la constipation, donc plusieurs effets secondaires. Si on parle à des personnes plus âgées, on va aussi souvent avoir une diminution de l'équilibre à cause de ça.
De là, le besoin, bon, j'imagine, de traiter de façon différente avec d'autres éléments que la pharmacologie, la médication, vers quoi de plus en plus les médecins, les scientifiques se tournent. Bon, des médecines complémentaires, on entend quoi par médecine alternative?
Il faut faire attention, je crois, à ce qu'on appelle médecine alternative. J'aime mieux parler de traitements non médicamenteux mm-hmm. parce que, bon, souvent quand on pense à médecine alternative, on pense à un traitement un peu ésotérique qui n'a pas vraiment été prouvé efficace, alors que de plus en plus, on voit que ces traitements-là non médicamenteux sont efficaces. Donc, on va penser à toutes les approches de physiothérapie, donc des exercices, de la chaleur, du froid, parfois des ultrasons, ce qu'on appelle un TENS, qui est un appareil qui va donner des petits chocs électriques qui peut soulager la douleur. Donc, ça, c'est les approches de physiothérapie. On va avoir des approches de psychologie. Et c'est important de savoir que c'est pas parce que on utilise une approche dite psychologique qu'on pense que la douleur est psychologique ou que la douleur est imaginée par la personne, là, même si on a une douleur qu'avec une cause physique bien identifiée, on peut quand même avoir un soulagement avec les approches psychologiques parce que notre esprit peut être emmené à contrôler la douleur, peut être efficace pour le faire. Donc, toutes ces approches-là psychologiques qui peuvent aller de ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, mm-hmm. là, ce qui est un mot un peu compliqué pour dire qu'on peut apprendre à contrôler la douleur puis à changer la façon dont on voit la douleur. On peut avoir des approches de relaxation, des approches qu'on appelle esprit-corps, comme le yoga.
Ouais.
Donc ça, c'est les approches qui peuvent être aidées. La méditation, comme la méditation pleine conscience, c'est beaucoup d'approches psychologiques qui peuvent être utilisées. On a aussi des approches d'infiltration ou d'intervention. Donc, on peut donner des injections, soit dans une articulation, si la personne a mal au genou ou à l'épaule ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ou on peut donner une infiltration dans le dos, si la personne a mal dans le dos. Donc, c'est plusieurs approches qu'on peut utiliser qui sont autres que des médicaments.
Est-ce que ces approches complémentaires doivent être données ou offertes en parallèle avec la médication ou elles pourraient être autonomes? On pourrait que prescrire ça à notre patient ou ça pourrait être que cette approche-là qui l'accompagne?
Ça pourrait très bien être seulement cette approche-là. Même que souvent, on devrait utiliser ces approches-là pour commencer.
Ah oui.
Puis, si les approches non médicamenteuse ne fonctionne pas, là, on pourrait passer aux médicaments. Donc, il n'y a rien qui empêche d'utiliser ça en combinaison avec des médicaments.
Est-ce que les médecins de famille ou les premières références des personnes âgées sont habilités ou sont ouverts à parler de ces approches complémentaires auprès de leur clientèle?
Je crois qu'ils le sont de plus en plus. Le problème qu'on a, c'est surtout que ces approches-là sont très difficiles d'accès.
Ouais.
Parce que souvent, elles ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. Donc, quand c'est pas remboursé par l'assurance maladie, les gens ont souvent les personnes avec douleurs chroniques, si elles sont en âge de travailler, elles ont de la difficulté à travailler à cause de la douleur chronique, donc elles ont des ressources financières limitées, si elles sont âgées aussi. Donc ça peut être un obstacle assez important à pouvoir utiliser ces approches-là, comme elles sont pas remboursées par la régie de l'assurance maladie, là, contrairement aux médicaments.
Mm-hmm. Docteur Lucien, on se parle aujourd'hui en vue de cette conférence qui aura lieu du côté du Centre Avantage, là, le 2 juin. La douleur chronique, comment la soulager à part qu'avec les médicaments? Vous serez à l'animation et vous serez accompagné de panélistes, donc une équipe interdisciplinaire qui vous accompagnera. Est-ce que vous avez l'impression que cette relation qui me semble de plus en plus ouverte entre le personnel médical et d'autres intervenants change l'approche, change les modes d'intervention envers la douleur chronique?
Oui, je crois que oui. Je crois que les gens sont de plus en plus ouverts à ça. Donc, oui, je crois que de plus en plus, là, si on peut rendre ces approches-là disponibles, je pense qu'elles vont être de plus en plus utilisées par le personnel médical, effectivement.
Mm-hmm. Est-ce que c'est possible de se libérer complètement de la douleur chronique? C'est la grande question, ça.
Non, mais de s'en libérer complètement, ça dépend ce qu'on entend par s'en libérer, d'avoir une guérison, si on veut, c'est-à-dire de plus avoir de douleur du tout. Ça, c'est très difficile, voire impossible, et c'est pas non plus le but recherché, parce que c'est presque impossible à atteindre, à moins qu'on ait une cause identifiable. Si j'ai quelqu'un qui a une arthrose de la hanche, fait un remplacement de hanche, la cause est partie, donc la douleur est résolue. Mais sinon, c'est presque impossible de s'en défaire complètement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'améliorer la douleur assez pour améliorer la qualité de vie, puis améliorer le fonctionnement de la personne. Puis ça, c'est possible. Assez souvent, on arrive à le faire. Donc, la douleur va être encore là. Mais comme on peut pas enlever la douleur complètement, on veut que la personne trouve des stratégies compensatoires, si on veut. Puis ça, c'est souvent possible à faire.
Et j'imagine aussi qu'elle soit plus engagée dans le traitement, qu'elle soit plus en maîtrise de ce qui se passe avec ces douleurs-là, avec son corps, une meilleure compréhension.
Effectivement, oui. Plus la personne comprend bien son corps, plus la personne comprend bien ce qu'elle peut faire pour améliorer ses douleurs, plus les chances que la douleur soit bien soulagée sont grandes.
Je pense ici, et corrigez-moi si je me trompe, Dr Lucier, au Canada, au Québec, on est des chefs de file en matière de recherche sur la douleur chronique. Qu'est-ce que l'on sait en ce moment sur la douleur chronique?
On sait de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup quels sont les mécanismes qui vont faire que quelqu'un, par exemple, a une douleur aiguë, puis cette douleur-là, chez une personne, va se transformer en douleur chronique, alors que chez l'autre personne, la personne ne développera pas de douleur chronique. Donc, on a de plus en plus d'informations sur ça. On a de plus en plus d'informations même sur les facteurs génétiques. Donc, on sait que certaines personnes, génétiquement, sont plus sujette à avoir de la douleur chronique face à un événement, face à un traumatisme, face à une maladie. On sait que les facteurs psychologiques aussi peuvent influencer les facteurs de personnalité. Donc, je crois que de plus en plus, on en connaît sur les mécanismes de la douleur chronique et aussi sur les façons de la traiter.
Ouais.
Mais on est encore très limité.
Ouais. Je me pose des questions sur le mode d'intervention ou encore l'aisance au diagnostic parce que je me disais, ça devient tellement personnel du cas par cas. Par exemple, le fameux 1 sur 10 là, que l'on se fait souvent demander. Ben, moi, mon 6 va être différent d'une autre personne et c'est extrêmement variable, tout ça.
Effectivement, mais c'est pour ça que quand on le fait sur 10, l'important, c'est pas d'avoir un chiffre absolu, en fait, parce que ce chiffre-là importe peu. L'important, c'est pas de comparer une personne par rapport à une autre, parce que oui, c'est comme vous dites, c'est très subjectif. Une personne va qualifier une douleur de 9 sur 10, alors que pour l'autre, c'est 2 sur 10. Moi, je vois souvent des gens qui ont du 15 sur 10 ou du 20 sur 10. Donc, ça, c'est très subjectif. Mais ce qu'on veut, c'est comparer une personne elle-même dans le temps. Donc, en autant que le barème reste le même pour cette personne-là, notre échelle est valable.
Oui, et tenter bien sûr de la soulager là, lorsque l'on entend 15 ou 20 sur 10. Évidemment, c'est assez préoccupant et vous y travaillez. D'ailleurs, vous êtes Dr Lucier, le directeur scientifique du Centre Avantage, qui prend une petite pause pour l'été. Quel est le bilan là, de la dernière année? Vous êtes satisfait des différentes activités et conférences qui ont lieu au cœur même du Centre Avantage?
Oui, on a augmenté de la présence aux conférences, si on veut. On n'a pas les chiffres finaux parce qu'il reste encore, comme vous le dites, une conférence. On a développé de nouvelles activités, de nouveaux ateliers. On travaille beaucoup aussi parce que c'était un peu notre première année, la vraie première année d'existence, si on veut. Donc, l'année d'avant, c'était pas une année complète. Donc, on est assez satisfait puis on est en train de travailler fort pour la prochaine saison là, pour avoir des choses autant ou encore plus intéressante. Puis ça va commencer le 8 septembre, notre première conférence. Puis les ateliers, les formations vont commencer dans la semaine suivante.
Bien sûr, on y jettera un coup d'œil attentivement. Donc, ce sera la dernière conférence, hein, le 2 juin, c'est bien
oui,
ça?
Oui, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de rejoindre les gens l'été, là, donc on prend une pause pendant l'été.
Et on peut s'attendre à quoi de cette rencontre le 2 juin?
Bien, le 2 juin, donc comme vous le disiez, c'est une équipe interdisciplinaire. C'est notre équipe de la clinique de gestion de la douleur chronique. Donc, c'est vraiment pour outiller les gens à utiliser des méthodes autres que les médicaments parce que, comme on le disait, les médicaments ont souvent des limites.
Ouais.
Donc, on veut outiller les gens, les informer sur des façons qu'ils peuvent prendre pour améliorer leur douleur chronique.
C'est le 2 juin, donc on glissera toutes les informations nécessaires sur notre site web, sur le site ici. Docteur Lucier, toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes médecin gériatre, directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique et directeur scientifique d'Avantage. Un très bel été à vous.
Merci beaucoup. Bel été à vous également.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Ginger ale pétillant, Jocelyne Gadebois, ça soulage la toux, ça, c'est votre truc d'infirmière?
C'est mon truc à moi. C'est froid, c'est pétillant, puis c'est doux. Alors, quand j'ai envie de tousser, je vais prendre une petite gorgée de pétillant.
C'est pas parce qu'on est infirmière qu'on est immunisé contre la maladie.
Oh,
hein?
Non, on n'est pas à l'abri de ça.
Bon, aujourd'hui, on parle pas de rhume, on parle pas de grippe. Bon, on se croise les doigts là, pour pas que ça nous atteigne également. Mais on parle de paralysie de Bell, qui est quand même assez fréquente, cette paralysie qui touche le visage. Là, une personne sur 60. Et en même temps, ça peut être assez inquiétant quand ça nous tombe dessus parce que ça ressemble à quelque chose de plus grave.
Ah, oui, tout à fait. C'est inquiétant quand on tout à coup et brusquement, on a la moitié du visage qui nous tombe d'un côté. Oui. On pense tout de suite à un ACV, hein?
Oui.
Automatiquement, c'est à ça qu'on pense. Un peu plus tard, on va parler de c'est quoi la différence entre un ACV puis une paralysie de Bell. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une paralysie partielle ou totale d'un côté du visage. Alors, à partir du front, à partir du sourcil, la paupière qui tombe, la joue qui tombe et la commissure de la lèvre qui tombe. C'est pas seulement ça, c'est aussi le récepteur du nez, qui est donc moins d'odorat, et du goût au niveau de la langue.
Okay.
C'est le nerf facial qui est soit inflammé ou soit compressé. On n'en sait pas plus concernant la paralysie de Bell.
Et ça arrive assez subitement. Qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est la perte d'odorat ou c'est plutôt l'affaissement du visage?
L'affaissement de la figure. La moitié de la figure.
OK. Et ça arrive là, au
début? Brusquement, soudainement, sans signe d'alerte, sans rien du tout.
Est-ce que l'on pourrait penser que c'est notre système immunitaire qui est un petit peu affaibli? Est-ce qu'il y a des causes?
Bien, la recherche aujourd'hui nous fait dire que ça peut être un lien avec le virus de l'herpès.
Ah oui, OK.
C'est peut-être une réactivation inflammatoire du virus de l'herpès. C'est tout ce qu'on sait. On va en apprendre plus avec le temps, mais les médecins commencent à penser à ça.
Est-ce que ça signifie, ça, Jocelyne, qu'une personne qui a des feux sauvages, par exemple, est plus susceptible d'avoir la paralysie de Bell?
Ben, je n'irais pas jusqu'à dire cela.
OK, OK.
Mais ça va jouer dans le traitement.
OK.
Ça veut dire qu'on pourrait donner des antiviraux.
Mythe ou réalité, vous savez, j'aime bien vous poser ce genre de questions. Est-ce que la paralysie de Bell pourrait être liée à la varicelle?
Non.
OK.
Pas dans ce cas-là. Non, pas du tout. C'est le zona qui serait plutôt lié à la varicelle.
Ah bon, OK.
C'est le zona qui fait la paire avec, avec ce virus-là.
Mais pas du tout lié à la paralysie de Bell.
Non, pas du tout. Okay. Pas du tout.
Maintenant, ce que l'on sait, c'est que ça peut toucher autant les hommes que les femmes.
Absolument.
Une personne sur 60, est-ce que l'on sait si ça touche une tranche d'âge plus particulièrement?
Plus fréquent en vieillissant, vraiment. Okay. Et on dit que les personnes qui sont diabétiques sont plus sujets à avoir des paralysies de Bell, les personnes qui font de l'hypothyroïdie, et ça peut arriver durant une grossesse, malheureusement.
Mm-hmm.
Oui, tout à fait.
Encore plus inquiétant peut-être là, lorsque ça arrive. Quelles sont les complications possibles, Jocelyne?
Bien, la seule complication qui peut y avoir, c'est d'avoir une petite paralysie partielle qui va durer longtemps.
OK.
C'est ça, la complication.
OK.
C'est que c'est supposé revenir en 6 mois. Les traces de la première petite paralysie vont disparaître complètement. Ça prend de 0 à 6 mois. Mais ça se peut, dans le cas d'une complication, que ça reste permanent. Mais c'est rare.
Qu'est-ce que l'on fait lorsque, subitement, parce qu'on le mentionnait tout à l'heure, ça arrive au détour d'une rue, la paralysie de Bell, le visage s'affaisse, quels devraient être nos premiers réflexes?
Bien, il faut aller consulter un médecin. C'est un problème neurologique. C'est le nerf crânien, comme je disais tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec le nerf, le système nerveux? Alors ça demande une consultation.
Okay.
Le médecin va faire un diagnostic assez rapidement à partir d'un examen du corps comme tel, avec son questionnaire également. Mais il n'y a pas de prise de sang, puis il n'y a pas de radiologie nécessairement qui vont confirmer une paralysie de Bell.
Et comment peut-on distinguer la paralysie de Bell de l'AVC?
L'accident cérébral-vasculaire, c'est tout un côté du corps qui va être atteint.
Ah, pas que le visage. Ah, voilà.
Et on sera peut-être plus capable de parler. Dans la paralysie de Bell, je vais être capable de parler. J'aurai pas de problème de langage. Dépendant de quel côté ça va se produire.
Mm-hmm.
Mais l'AVC, c'est souvent une hémiplégie qui accompagne complètement ou une grande faiblesse des bras ou de la jambe d'un même côté.
Et c'est pas associé à de la confusion?
Non. La paralysie de Bell, ça a rien à voir avec la confusion. Il y a pas de perte de conscience non plus. L'état de conscience reste pareil. Non, il y a seulement l'affaissement des muscles d'un côté du visage, une perte de goût, une perte de sensibilité au niveau des récepteurs olfactifs, mais c'est tout, ça reste là. Par contre, aussi, puis c'est ça qui est différent avec l'AVC, c'est qu'on se touche puis on ressent quand même.
Ah oui?
On a la sensibilité de la peau.
Ce qui n'est pas présent avec l'AVC?
Non.
OK. Bon, maintenant... Encore un mythe, parce que ma mère a été touchée par la paralysie de Bell. Hein? Je ne l'ai pas dit, mais voilà. encore une fois, mythe ou réalité, moi, ce que l'on m'a dit à ce moment-là, c'est que si on ne consultait pas assez rapidement, les chances de rester avec des atteintes au visage étaient plus élevées. Est-ce que
c'est
ça a
vrai?
Voir, ça?
Ah, c'est voilà. Vrai. Je dirais que c'est vrai. Pardon. Il faut donner des anti-inflammatoires.
Mm-hmm.
Souvent, ça peut être ça. Ou les antiviraux, selon le questionnaire du médecin.
Oui. Mm-hmm.
Ou encore des analgésiques.
Ça, c'est le traitement.
C'est le traitement,
okay.
Exactement. Il y a aussi des soins spéciaux à donner, étant donné que les yeux vont devenir secs. On va avoir de la difficulté à fermer la paupière. Les yeux deviennent secs. C'est très inconfortable. On met des lampes artificielles.
Mm-hmm.
Et aussi, la nuit, l'œil ne se ferme pas.
Ah,
on le tient fermé avec un diachylon.
OK.
Ouais.
Est-ce que les enfants peuvent être touchés?
Oui, ça peut arriver que les enfants aient ça. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Mais comme j'expliquais, c'est plus fréquent avec l'âge.
Mm-hmm. Est-ce que le médecin va nous diriger vers de la réadaptation faciale, vers un physiothérapeute?
Non, il n'y a pas vraiment de rééducation de ce côté-là. Il n'y en a pas, comme avec un AVC. Ça peut prendre de 3 à 6 mois à revenir. Mm-hmm. Et ça prend, dans 60 à 80 des situations, ça revient tout seul.
OK. Et est-ce qu'on est plus susceptible, si on a vécu un épisode de paralysie de Bell, d'être retouché par la paralysie?
Il y a 10 % de récidive.
OK. Est-ce que c'est beaucoup, ça, selon votre œil d'infirmière, 10
%? Non, c'est pas okay. beaucoup. Il y a 10 % de récidive parce que vous avez dit 1 sur 60 à peu près tantôt. Alors, 1 sur 60 sur toute la population, c'est quand même pas fréquent,
mm-hmm.
si fréquent que ça. Alors, 10 % de ce 1 sur 60, c'est pas beaucoup.
Est-ce que toutes les populations sont touchées de la même façon?
Oui.
OK.
Oui,
et qu'est-ce qui explique, Jocelyne, le fait qu'on ait si peu d'informations par rapport à la paralysie de Bell? Parce que je le disais tout à l'heure en introduction, une personne sur 60, ça me semble beaucoup, et pourtant, on a très peu d'informations.
Oui, on n'en entend pas souvent parler, c'est vrai.
Pourtant, moi, je connais plein de personnes qui ont été touchées.
Vécu ça. Hein?
Oui. Des femmes principalement, mais
des
bon.
Des femmes principalement, oui. Ah, bon. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. C'est un sujet qui n'est pas questionné souvent, probablement. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me faisait plaisir d'en parler, la paralysie de Bell. Alors, je sais pas pourquoi on n'en parle pas.
On peut s'attendre à travers les prochaines années, j'imagine, à avoir un petit peu plus d'informations. Là.
Il y a toujours de la recherche qui se fait au niveau du système nerveux. On en apprend énormément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, faut suivre ça, cette recherche-là, pour être à jour. Comme les antiviraux, là, puis le lien avec le virus de l'herpès.
Ouais.
Moi, je ne savais pas du tout. C'est en faisant ma recherche que j'ai trouvé ça.
Vous voyez, on contribue à votre éducation
encore. Tout à fait. C'est ce que j'aime, faire mes petites recherches pour venir faire mes chroniques.
Jocelyne Gadebois, infirmière, on vous souhaite prompt rétablissement.
Merci beaucoup.
Merci pour le truc du ginger ale pétillant.
Oui.
On ne sait jamais, ça pourrait nous donner un coup de main à nous aussi. Jocelyne, et dans 2 semaines, on se retrouve et ce sera notre dernier sujet à ce moment-là.
Déjà.
Il faudra y penser à savoir ce que l'on souhaite aborder ensemble.
Absolument.
Merci, Jocelyne.
Merci.
La semaine prochaine, c'est la semaine nationale des personnes handicapées du 1er au 7 juin, évidemment. On va vous en parler davantage et on aura de beaux sujets à vous suggérer en lien avec cette semaine. C'est Marianne Paquette au micro, Jean-Sébastien La Liberté derrière sa console. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Téléphone, courriel, Twitter, Facebook, toujours un plaisir de vous lire, de vous entendre. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.